Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir Baya Carla Stendhal, la voix jeune, libre et sans filtre de la droite patriote. Vous la connaissez hein, pour ses vidéos sur les réseaux, ses passages remarqués chez Cyril Hanouna et surtout pour son émission Coup de poing, on ne va pas se mentir, hein, que vous écoutez, j'espère, chaque samedi de 15h30 à 17h, ici même sur Radio Courtoisie. Cet été 2026, la canicule tape fort, les villes surchauffent, et avec elles, les tensions dans l'espace public, hein, femmes harcelées, agressées, parfois bien plus gravement. C'est donc le thème du jour, femmes en première ligne, sécurité, assimilation et réveil patriotique, parce qu'on ne va plus se mentir, la France ne protège plus correctement ses filles, et cela n'a rien d'une fatalité. Eh bien, Baya Carla, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation, je suis très heureuse d'être là. Ça change pour moi de ne pas présenter l'émission, c'est une première.
Un plaisir partagé. Donc vous êtes passé très vite, comme je l'ai dit, des réseaux sociaux et des plateaux de Cyril Hanouna à la présentation donc, d'une émission hebdomadaire sur Radio Courtoisie.
Absolument, tous les samedis de 15h30 à 17h.
Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le cap et à rejoindre cette maison ?
Bah écoutez, Radio Courtoisie, depuis très jeune, c'est une radio que j'apprécie énormément parce que c'est la seule pour moi aujourd'hui qui permet une liberté d'expression entière, ce que je ne retrouve pas dans les autres médias. J'avais déjà été invitée quand j'ai commencé un peu à être médiatisée et j'avais eu de bons souvenirs. Et puis la vie a fait que j'ai pu rencontrer certaines personnes qui travaillent ici et au fur et à mesure, j'ai tout de suite été introduite. Mmh. Mais c'est une énorme chance de pouvoir être là et j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers toute l'équipe qui m'a très bien reçue. Et voilà, je suis très heureuse et ça se passe très bien. Et voilà, j'ai hâte de voir les autres émissions.
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et puis vous avez aussi... Rappelons-le, une très belle équipe aussi avec vous.
Ah oui, j'ai une très très belle équipe et en fait, l'équipe que j'ai choisie, c'est vraiment une équipe qui reflète un peu tout mon parcours depuis le départ, notamment Armand qui en fait, j'ai pu rencontrer à mes débuts dans le journalisme. Donc le journalisme est venu juste après ma présence sur les réseaux sociaux. Je me suis dit qu'il fallait que je me professionnalise un petit peu et j'ai eu ce coup de fil avec Armand et c'est assez amusant parce que Georges, qui a aussi été l'un de nos invités, me l'a présenté. Donc vous voyez, il y a vraiment il y a une sorte de, comment dire, de reconnaissance dans mes émissions envers mon passé et envers les rencontres que j'ai pu avoir. Et donc, Armand, en fait, on a passé 2 heures au téléphone et on s'est dit on va travailler un jour ensemble. Au final, on s'est retrouvés effectivement à travailler ensemble. Il m'a viré, pour la petite anecdote. Et plus tard, on s'est retrouvés. On a décidé de s'associer sur plein de projets, notamment la création de médias. Et c'était pour moi tout à fait naturel qu'il rejoigne l'aventure. Elliot, on a pu travailler aussi à la télé ensemble sur C8. Et voilà, c'est vraiment que des personnes avec qui j'ai pu travailler dans le passé. Et donc, pour leur exprimer aussi ma gratitude, je voulais qu'ils soient autour de la table. Et puis, ça me rassure aussi d'avoir des personnes qui me connaissent. C'est très important d'avoir, pour vraiment donner aux auditeurs de nous écouter, il faut vraiment qu'il y ait une alchimie entre toutes ces personnes. Et là, je trouve ça merveilleux parce qu'on se connaît tous. Et que, voilà, il y a une belle alchimie entre nous. Et voilà, c'est super.
Et vous avez traversé donc des polémiques, hein, Baya Carla, assez violentes, hein, notamment autour de photos anciennes ou d'accusations sur votre identité. Comment avez-vous vécu ces attaques et qu'est-ce qu'elles vous ont appris sur le débat public actuel ?
Ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, en tant que femme, on a souvent tendance à dire oui, en tant que femme, on est plus attaquée que les hommes, etc. Mais de manière générale, quand vous commencez à vous exposer, et surtout sur des grandes chaînes comme C8, forcément, il y a des attaques derrière, il y a des menaces de mort, il y a des insultes. Beaucoup de choses qui ont été dites étaient totalement fausses. Et d'ailleurs, j'ai eu, grâce à Cyril Hanouna, une tribune pour pouvoir m'exprimer avec mon avocat et pouvoir démentir. Et par la suite, il y a eu des plaintes, etc., qui sont toujours en cours. Mais en fait, d'un autre côté, je me dis, si les gens commencent à parler, si les gens commencent à vous attaquer sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous dites, bah, c'est que ça fonctionne, c'est que ça fait bouger et c'est très bien. Honnêtement, des polémiques, j'en aurai certainement plein dans le futur et je m'en souhaite parce que ça voudra dire que ça fonctionne.
Voilà, ça veut dire que vous ne les laissez pas indifférents.
C'est ça, absolument.
Votre émission, donc on ne va pas se mentir, décrypte l'actualité hein, avec une bande d'invités, comme on vient de le dire, variée. Récemment d'ailleurs, Sardoche et André Bercoff.
Absolument,
quand même,
ouais, hein. Des invités de marque.
Tout à fait.
Pour une septième émission, c'est quand même exceptionnel.
Je
c'est
trouve,
qu'ils nous font
oui.
confiance.
C'est très bien. Et quel est exactement le concept et la ligne éditoriale que vous voulez incarner ?
Le concept de base, c'est vraiment un talk show un peu inspiré de, par exemple, l'émission de Cyril Hanouna, on va pas se mentir. On va pas se mentir, pardon. On marche sur la tête, je confonds toujours les deux. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec la production qui s'est occupée de cette émission. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, ça manque d'émissions un peu talk show à l'ancienne, un peu à la Thierry Ardisson. Alors, je dis pas que j'ai la grandeur de Thierry Ardisson et j'espère un jour pouvoir atteindre son
niveau. Je
vois
ce que vous voulez dire.
Mais un côté un peu plus cool,
ouais.
Qui permet aussi aux jeunes d'avoir une tribune, tout en gardant évidemment l'identité de Radio Courtoisie, parce que pour moi c'est très important, c'est important de défendre aussi les valeurs de la radio. Mais c'est vrai que c'est la ligne éditoriale est très honnêtement de droite. Je pense que vous l'avez compris, sinon on serait pas là. De droite, jeune, affirmée, et surtout qui représente aussi toutes les droites, comme le slogan de Radio Courtoisie le
toutes
dit
les
très
droites,
bien.
Tous les talents.
Voilà, absolument. Et donc on peut avoir même des macronistes qui viennent sur notre plateau. Là, on essaye même d'avoir des gens de gauche pour pouvoir avoir du débat, parce que c'est important d'avoir du débat.
Bienvenue au club.
Voilà, mais on essaye, même si c'est compliqué de les faire venir, parce que généralement ils ont du mal à s'exprimer quand ils sont en infériorité numérique.
C'est ça.
Mais on essaie d'avoir toutes les droites, c'est un peu une bande de potes sans vouloir faire trop bistrot non plus. Mais voilà, une bande de potes qui se réunissent tous les samedis de 15h30 à 17h qui parlent d'actualité avec une émission qui est quand même relativement bien construite. On a un vrai conducteur, on se retrouve pas comme ça avec trois sujets, tout est bien construit. Elliot s'occupe beaucoup de l'organisation et de la coordination de cette émission et c'est un vrai professionnel. Il a monté des émissions énormes qui font aujourd'hui des 2 millions de téléspectateurs, donc c'est des vrais professionnels, mais qui ont une image et qui ont un phrasé qui un peu plus cool et qui parle plus aux jeunes.
Et puis soyons très clairs, vous êtes une grande bosseuse aussi.
J'espère. jamais assez, c'est jamais assez.
Cher Boya Carla, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, hein, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Baya Carla, comment choisissez-vous vos sujets et vos invités et quel retour avez-vous de l'auditoire de Radio Courtoisie ?
Ce qui m'intéresse, c'est ce qui intéresse les Français. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance, surtout en tant que présentateur, animateur, on a tendance à vouloir mettre des sujets qui nous intéressent, nous, personnellement, sur la table. Mais je pense qu'en fait, déjà, on a beaucoup de chance. Avant, on n'avait que l'AFP. Aujourd'hui, en tant que journaliste, on a accès aux réseaux sociaux, ce qui nous permet d'avoir directement un lien avec nos auditeurs, finalement, et avec les Français. Donc, les sujets se présentent naturellement à moi, c'est-à-dire que je vais pas aller, même si j'aime beaucoup regarder plein de chaînes comme RMC, CNews, BFM, j'aime bien m'informer et m'imprégner de toute l'actualité. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir aussi ce qui intéresse les Français. Et parfois, on a la chance d'avoir des sujets qu'on n'entend pas ailleurs, des sujets qu'on voit sur des petites vidéos, ça va être un coup de gueule de je dis n'importe quoi, de Madame Bernard qui a une boucherie dans le fin fond de la Creuse et qui a un problème personnel et elle a envie de s'exprimer par rapport à son problème, mais elle n'a pas de tribune. Et ben on va essayer de prendre cette petite affaire et de voir de manière nationale comment on peut essayer de l'exploiter, voir s'il y a d'autres cas dans d'autres mêmes cas, pardon. Et en fait, on essaie d'aller au plus près de l'information et pas forcément voilà, juste prendre le Figaro ou le Parisien et voir quels sont les gros sujets de la semaine, même si on le fait évidemment,
bien
parce
sûr.
Qu'on parle des sujets qui intéressent. Mais on essaie vraiment d'aller au plus proche des Français.
Donc ça, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, je suppose
C'est déjà en place, moi je m'informe beaucoup.
De plus en plus, peut-être.
En fait, j'essaie pas de rester dans ce que j'appelle le salon parisien, parce on a la chance d'être à Paris, ou la malchance d'ailleurs, je ne sais pas. Je préfère la campagne, personnellement. Mais on a la chance d'être à Paris, d'être connecté un peu avec tout ce milieu médiatique, politique, et en fait, on a tendance à rester entre nous et à penser que notre pensée, notre actualité vaut pour toute la France, mais en réalité, c'est pas le cas, et c'est important de s'imprégner de cette actualité, de s'imprégner de ce que veulent les Français et ensuite l'étaler de manière nationale, puisque les réseaux sociaux, pour le coup, voilà, représentent toute la France.
Et comment analysez-vous la dégradation de la sécurité des femmes dans l'espace public en France, et quel lien faites-vous avec les questions d'immigration et d'intégration ?
Bah écoutez, le lien est très clair. Je pense que l'immigration joue un rôle énorme dans l'insécurité des femmes dans l'espace public. C'est pas les mêmes codes, on n'a pas la même culture. Alors je dis pas évidemment que toutes les personnes issues d'immigration sont des violeurs et des agresseurs, ça c'est totalement faux. Et d'ailleurs moi-même dans mon cas personnel, mes grands-parents viennent d'Algérie du côté de ma mère et je n'ai pas l'impression que c'était des violeurs, bien au contraire c'était des travailleurs. Mais ne jamais se baser sur une expérience personnelle pour en faire une généralité. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas imprégnés notre culture du fait de nombre. À un moment donné, quand vous avez des communautés qui sont beaucoup trop nombreuses, voilà, je le dis souvent, c'est un peu basique, c'est pyramide de Maslow, un des besoins primaires c'est le besoin d'appartenance, et donc les gens se regroupent entre eux avec des valeurs communes et différentes des nôtres. Et aujourd'hui c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a, c'est pas seulement l'insécurité des femmes dans l'espace public, c'est l'insécurité de tout le monde. Ouais. Quand on voit ce qui s'est passé notamment avec Louis, entre autres, évidemment il y en a plein, d'ailleurs il y a qu'Éric Zemmour qui a voulu mettre le doigt dessus et qui a appelé ça des francocides, qui est un mot interdit pour certains médias. Mais oui, effectivement, il y a une haine du blanc aujourd'hui, on l'observe. Moi, j'ai pu aller à l'école avec des gens qui avaient plein d'origines différentes et de nationalités différentes, mais on voit bien qu'il y a une haine du français, et de plus en plus, et on l'observe de plus en plus tôt chez les jeunes. Moi, je le vois même quand on voit, par exemple, l'affaire Hamza, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire.
Hamza Ladouane,
qui lui représente d'une certaine manière un symbole de la haine du prochain, en fait. Parce qu'il choisit ses cibles. On peut le voir, parce que tout le monde a dit sur les réseaux « Oui, mais c'est un jeune, il s'amuse, etc. » Oui, mais bizarrement, il choisit quand même ses cibles. Et même si lui ne fait pas de la politique directement et ne se dit pas « Non, mais j'aime pas la France, j'aime pas les Français », indirectement, dans sa tête, il a été formaté avec certains codes, et c'est ça qui est terrifiant. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont formatés, qui ont un logiciel anti-France, sans pour autant faire de la politique. Mais c'est devenu une croyance générale. Voilà, c'est ça qui me terrifie aussi. Donc ça ne concerne pas forcément que les femmes, même si effectivement les femmes sont souvent les premières touchées, parce que les femmes sont quand même plus vulnérables. Il y a un effet national en fait, et même civilisationnel si on va plus loin. C'est aussi européen. Aux États-Unis c'est encore une autre affaire, même si eux ont d'autres soucis avec l'immigration, mais on voit bien que c'est un problème européen. Aujourd'hui tout le monde s'empare de ces sujets. J'ai eu la chance grâce à l'IFP de pouvoir assister à la conférence ARC qui permet de rejoindre tous les conservateurs européens, et on voit bien que qu'en France nous sommes pas isolés. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre et qu'il y a des tribunaux de la charia, je veux dire, il y a un moment donné ça va. Je touche du bois, je sais pas si c'est en bois, mais pour le moment, même si on le voit dans les rues, il y a quand même des pays qui sont encore plus embêtés par l'immigration que nous.
D'accord. Et vous avez souvent aussi défendu l'idée d'une assimilation réelle plutôt que du multiculturalisme.
La créolisation, oui.
Ouais. Et où en est-on aujourd'hui, selon vous, et quelles sont les conditions, Carla, pour que l'intégration fonctionne vraiment en France ?
Honnêtement, je trouve que parler d'assimilation, c'est un peu désuet. Il y a 20, 30 ans, j'aurais dit, bon, allez, on peut encore assimiler certaines personnes, mais on peut assimiler des individus. Vous prenez quelqu'un, vous le changez complètement, vous le retirez de sa sphère communautaire et vous le mettez dans une autre sphère avec des valeurs et des normes différentes. Je pense que l'assimilation est possible. Là, en l'occurrence, on a des chocs de culture, donc ça va être compliqué d'assimiler plein de communautés, surtout que ces communautés-là sont supportées par des politiques comme Mélenchon, qui aujourd'hui a un électorat qui est quand même assez conséquent, des Bali Bagayoko à Saint-Denis qui prônent la haine de la France, qui sifflent la Marseillaise. Quand vous avez des gens comme ça, j'en veux pas tant aux personnes qui vivent dans ces quartiers-là, j'en veux pas tant aux personnes issues de l'immigration, moi j'en veux aux personnes qui les manipulent et qui leur font croire, oui, parce que à des volontés électorales, à des fins électorales, pardon. Mais même si, évidemment, je leur en veux, j'ai toujours cet exemple assez féminin où vous allez voir, c'est très bateau, mais je dis souvent, j'ai souvent cette conversation avec ma maman et je lui dis, mais qui est très dans la diététique, etc. Et je lui explique et je lui dis, mais tu sais, quand tu grossis, t'as le gras et t'as les fast-food, t'as ce qui te fait grossir et t'as la graisse. Je lui dis, j'expliquerai ça à mes enfants plus tard pour qu'ils comprennent. Je leur explique que la nourriture qui te fait grossir, c'est la gauche, et la graisse, c'est les migrants. C'est un rapport pour expliquer. C'est très enfantin d'expliquer ça,
mais je vois l'image.
Mais c'est pour expliquer le rapport. C'est constat, conséquence et évidemment la source du problème. Et c'est important d'identifier les deux.
Et en tant qu'ancienne chroniqueuse TV, bah vous l'êtes toujours d'ailleurs.
Non, je ne le suis plus. J'en parlerai dans mon livre.
En tout cas, actuelle animatrice radio, ça je suis sûr de ne pas me tromper.
Oui.
Comment jugez-vous le rôle des influenceurs de droite face aux médias mainstream, hein? Et la parole libre est-elle plus facile ou plus risquée aujourd'hui?
Non, j'ai l'impression. Alors, si vous m'aviez interviewé il y a 3-4 ans, j'aurais dit oui, c'est très compliqué d'être de droite en France et de pouvoir l'affirmer. Aujourd'hui, même s'il y a des raids numériques, des attaques, etc., on est beaucoup plus soutenu. La parole est beaucoup plus libre, même si effectivement il y a de la censure. On a quand même fermé une chaîne à cause de ça, C8.
C8.
Voilà, CNews, je touche du bois, mais il y en a quand même beaucoup qui veulent l'attaquer. La liberté d'expression en général est en danger en France aujourd'hui. Il n'y a plus, comme disent les Américains, le free speech. C'est en danger. En revanche, grâce aux réseaux sociaux et grâce à certaines associations, aujourd'hui, on a quand même... Les gens ont moins de mal à se revendiquer de droite. Donc honnêtement, moi, j'ai beaucoup plus d'espoir aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est... Il ne faut pas non plus être totalement dans la négativité. Et je pense que, très honnêtement, la parole se libère de plus en plus. Et il y a un mouvement sur les réseaux. Avant, il y avait une sorte d'anarchisme à dire qu'on était de droite. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu assez classique. Il n'y a plus... Moi, je vois mes commentaires ou mes statistiques en général, c'est beaucoup moins...
C'est moins haineux, peut-être.
Moins haineux, et c'est moins... J'arrive pas à trouver le terme. C'est moins incroyable d'être de droite, quoi. C'est moins quelque chose qui n'est pas connu par les gens.
D'accord.
Donc moi, je reçois moins d'attaques, par exemple.
Mais malgré tout, en tout cas, c'est quand même, pour moi, assez récent. Ça fait effectivement, il y a 3 ans, moi,
Oui.
Je pense pas que vous auriez eu ce genre de...
Non,
enfin, vous auriez eu les commentaires, mais...
Non, je suis assez d'accord.
Bien que, je pense.
En fait, la parole...
Dans le mauvais sens du terme.
Non, dans le sens où, en fait, la parole se libère, c'est moins mal vu d'être de droite, mais évidemment, il y a des gens de plus en plus haineux des deux côtés. C'est-à-dire qu'à gauche, oui, il y a des... À l'extrême gauche, et même... Enfin, on dit l'extrême gauche, mais en réalité, toute la gauche est devenue d'extrême gauche. Mais toute la gauche, aujourd'hui... se libère aussi. Moi, quand je vois les commentaires, c'est des menaces de mort, des insultes qui n'ont rien à voir avec le fond de ma pensée. Ça va être des nazis, fascistes, bon voilà. Mais ça, à la limite, on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une haine de plus en plus profonde entre les deux parties. Quand je dis partie, c'est extrême droite, extrême gauche, même si bon, les termes extrême droite, on s'entend, c'est ce qu'ils disent, mais bon, moi, je vois pas l'extrême droite en France. Mais j'ai quand même l'impression que... Enfin, je relativise beaucoup sur le fait que j'ai l'impression qu'on a quand même une parole libre. Honnêtement, en fait, on est tellement soutenus, il y a tellement de gens qui pensent comme nous que c'est un moteur aujourd'hui de se réveiller et de se dire je suis de droite, je fais ça pour mon pays.
Et puis, je veux dire aussi, heureusement aussi, que maintenant il y a de plus en plus de médias indépendants.
Bien sûr.
Voilà, ça fait un peu une la palissade ce que je dis, mais enfin bon, si voilà. Rien que Radio Courtoisie, par exemple.
Bah, c'est vrai, Radio Courtoisie, honnêtement, il y a de plus en plus de jeunes, il y a un équilibre entre personnes plus âgées et jeunes qui est, je trouve, magnifique. Il y a une bonne synergie entre les émissions et ça se professionnalise. C'est-à-dire que il y a 10-15 ans, dire je suis de droite, je suis dans les médias de droite, c'était très compliqué. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous et qui nous soutiennent. Donc honnêtement, moi, je suis plutôt positive. Je suis plutôt dans le...
Oui,
je suis plutôt positive, en fait.
Et mi-2026, quel regard portez-vous sur l'état de la droite française, justement, bon, vous en avez un peu parlé, sur la capacité des idées patriotes à peser dans le débat public?
Je pense qu'au niveau de la droite, moi je suis assez déçue pour être très honnête d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis posé la question de pour qui je vais voter comme tous les Français. Et beaucoup de gens de droite aussi me le disent, bah, ça va être très compliqué en fait. Parce que c'est vrai qu'avec l'élection d'Éric Zemmour, on avait beaucoup d'espoir. Et il y en a beaucoup qui ont quitté la politique suite à ça. Et j'ai pas beaucoup entendu de sujets... Sur la fin de campagne, même si on a eu quelques-uns, mais sur la déception. Il y a des gens qui sont tombés... Moi, j'ai discuté avec des gens qui avaient fait la campagne, ils sont tombés en dépression. Il y a une telle ferveur autour d'Éric Zemmour... Oui, il y avait une telle ferveur autour de lui. Et puis, Éric Zemmour, c'était... Je vais pas faire cette tribune, mais... Éric Zemmour, c'était le seul candidat qui permettait une certaine union des droites. Moi, j'étais avec des gens qui étaient monarchistes, qui étaient républicains, qui étaient ultra-libérales, qui étaient colbertistes... En fait, il avait réussi, de par son amour pour la France, il avait réussi à réunir beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, on voit avec Génération Zemmour, c'était de la folie.
Ah, vous dites qu'il avait, vous trouvez qu'il... Parce qu'il y a quand même encore Sarah Gnafo.
Il y a encore Sarah Gnafo, j'attends de voir, honnêtement. Là, moi, je suis plus du tout connectée. Je participe plus à des événements politiques, ouais, etc. J'essaie de prendre un peu prendre un peu de recul et essayer de voir ce qui va se passer. Donc j'ai pas d'avis spécifique sur la politique politicienne en tant que telle.
D'accord.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait réformer et la 5e République telle qu'elle est aujourd'hui, pour moi ça va être très très compliqué de pouvoir imposer nos idées même si quelqu'un de droite passe au pouvoir.
Mm-hmm.
Tout est ultra scellé, que ce soit en matière de constitution, que ce soit en matière de sujets européens. Donc honnêtement, j'essaie de pas trop me positionner là-dessus pour ne pas être déçu. Même si ça paraît un peu lâche, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est la société civile française, c'est les associations, c'est les Français, c'est voir comment nous on peut vivre en communauté, essayer de trouver des solutions et puis de continuer le progrès technique français, parce que la France c'est pas simplement de la politique aussi, il faut essayer de s'en sortir. Mm-hmm. Parfois ça fait du bien, mais c'est aussi nos terroirs français, c'est aussi notre patrimoine, et j'essaie de plus être dans cet aspect positif, essayer de rencontrer des gens qui cultivent la terre, qui sont vignerons, qui produisent des films français. Ça m'intéresse plus que la politique politicienne. Aujourd'hui, ça m'intéresse moins. J'ai été assez déçue et j'aimerais pas donner mon avis sur ce sujet-là.
D'accord.
Honnêtement.
Non, moi, ça le mérite d'être clair. Quels sont, Maria Carla, vos projets à court, parce que ça passe très vite, et moyen terme, tant pour votre émission que personnellement?
Écoutez, pour mon émission, j'espère qu'elle continuera à grandir. Là, ça commence à s'installer, donc j'ai pas commencé à changer des choses, mais en tout cas, continuer à avoir des invités intéressants, continuer avec mon équipe, que je trouve exceptionnelle. Et puis en sujet, là, j'espère avoir mon master à la fin du mois. Et ça, c'est important, je touche du bois aussi, parce qu'avec mon école de gauchiste, c'est très compliqué d'y aller tous les jours. Mais continuer à donner aux auditeurs du contenu de qualité. Et
donner, d'après ce que j'ai compris, excusez-moi, je vous coupe.
Non, je vous en prie.
Donner aussi plus la parole, j'ai cru comprendre dans votre émission, aux Français.
C'est ça, voilà, essayer de faire intervenir davantage des auditeurs continuer, parce que je produis aussi des documentaires, donc continuer à produire des documentaires avec mon cher Armand. Et puis ensuite, on verra, avec l'élection présidentielle, on va avoir tellement de travail que je ne veux pas à moyen terme me positionner sur des gros sujets. Et puis à long terme, avoir ma propre famille, fonder une famille, me marier, avoir des enfants. Continuer à aller à la messe le dimanche. Voilà, mais donc ça c'est plutôt le côté personnel, mais qui rejoint aussi mon côté professionnel. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le journalisme, parce que je me suis toujours dit que je pourrais m'occuper de mes enfants et avoir une émission, donc voilà, pour mes projets.
Alors, c'est quelque chose. Je voudrais quand même, si vous pouvez en quelques minutes, revenir sur la jeunesse. Vous êtes une voix quand même jeune dans le paysage, hein. Mmh. Comment voyez-vous l'engagement des jeunes générations sur les questions d'identité et de souveraineté ?
Bah, encore une fois, je vais être très positive. Non, honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir. Quand je vois les jeunes autour de moi, il y a eu vraiment un, il y a eu un réveil. En fait, être de gauche, c'est plus à la mode. Être de gauche, c'est à la mode pour les jeunes bourgeois parisiens qui écoutent du rap. Je vais être très caricaturale, même si à droite, on peut écouter du rap évidemment, mais voilà, qui écoutent du rap, qui aiment se donner un genre, qui pensent que voilà, mai 68, c'était génial, sous les pavés, la plage, voilà, tout ça. Mais ça représente une minorité en fait, la France qui travaille, la France qui aime avoir son église au milieu du village, la France qui aime visiter ses châteaux le week-end. Mais en fait, cette France, elle se réveille, et aujourd'hui la jeunesse est plus forte que jamais. On peut le voir, que ça soit avec les associations de droite, que ça soit sur les réseaux sociaux. Vous dites à n'importe quel jeune aujourd'hui, il est fier de dire qu'il est droite, il est fier parce que il y a eu tellement un matraquage idéologique de la part de la gauche, que ça soit dans le cinéma, dans la musique, qu'aujourd'hui il y a un ras-le-bol. En fait, le petit jeune de 20 ans qui va dans son qui va chez lui, qui fouille dans ses placards et qui voit une photo de son grand-père qui a fait la guerre, qui s'est battu pour la France, mais en fait lui, il a pas envie qu'on marche sur son drapeau, il a pas envie qu'on lui dise que être français c'est de la merde, il a envie d'être fier de son drapeau. Et aujourd'hui il y a un réel réveil des jeunes,
d'où ces mouvements
évidemment.
Il y a pas mal de mouvements quand même là.
Ah oui, oui, il y a beaucoup de mouvements, mais c'est très bien. Honnêtement, je pense que la gauche a été tellement au fond du trou qu'aujourd'hui les jeunes, c'est même pas que les jeunes de droite en fait, c'est que maintenant même des jeunes qui sont pas politisés sont fiers de dire qu'ils sont français. On le voit bien, notamment avec Hugo Nemesis 2 qui est combattant de MMA. C'est quelqu'un d'inspirant et il a pas peur de dire qu'il est patriote et français. Et grâce à des gens comme ça, ben en fait, ça inspire beaucoup de jeunes, et ces jeunes ont envie de préférer lui ressembler lui qu'un Louis Boyard ancien dealer ou qu'un Sébastien Delogu ou que sais-je.
Et puis saluons, puisque vous parlez de rap, saluons aussi Chaotique par exemple.
Oui, bien sûr.
147.
Millésime K.
Voilà, aussi. Bon, écoutez, ça passe très vite.
Oui.
Ce sera le mot de la fin, malheureusement. J'espère que vous reviendrez.
Avec plaisir. Et vous aussi, dans mon émission.
Mais quand vous voulez, ça sera vous de m'inviter. Merci en tout cas du fond du cœur pour cette franchise, ce courage et cette lucidité. Hein, vous l'avez dit avec force. Les femmes, mais pas que, de France ne doivent plus être en première ligne des abandons de l'État.
Bien sûr.
L'assimilation n'est pas une option, c'est une exigence. Hein, et le réveil patriotique n'est plus une idée, c'est une nécessité vitale.
Absolument.
Pour protéger nos filles, nos rues et notre civilisation. Chers auditeurs, donc ne lâchez rien, hein, soutenez les voix libres comme Baya Carla. Écoutez, on ne va pas se mentir, chaque samedi, donc de 15h30 à 17h, et restez mobilisés. Voilà, la France mérite d'être défendue, et elle le sera. Merci encore, Baya Carla, et on se retrouve très vite sur Radio Courtoisie. Portez-vous bien, et à très bientôt.